Bonjour à tous. Mercredi, littérature en deux parties. Midi 55, des romans pour réparer les vivants. Une littérature thérapeutique obsédée par la mémoire, attachée à réécrire l'histoire, concentrée sur la carte et le territoire. Est-ce le propre de la littérature contemporaine? C'est le parti pris de notre invité, directeur de recherche au CNRS, Alexandre Geffen, dans son essai de théorie littéraire qui vient de paraître aux éditions José Corti, Réparer le monde, à retrouver après le journal d'Antoine Mercier. Midi 3, à écouter là, maintenant, tout de suite, sur France Culture. Ou un peu plus tard, si vous le souhaitez, en podcast sur franceculture.fr, POL s'auto-édite, sorti aujourd'hui du deuxième long-métrage éditeur de Paul Otchakowski-Laurence, notre invité, un autoportrait mi-documentaire, mi-expérimental, où il retrace la genèse d'une vocation. Qu'est-ce qu'un éditeur, si ce n'est celui qui trouve ses mots à lui, à travers les mots des autres?
La grande table, Olivia Gesbert.
Il y avait dans ce petit carré, à cause des lettres, à cause de tous ces caractères mêlés, il y avait l'idée de tous les livres au monde, les livres passés, les livres à venir, toutes les histoires écrites et à écrire, jusqu'à la fin des temps, tous les poèmes. Tout partait de là, tout y revenait et repartait, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêterait jamais.
Éditeur de Marguerite Duras et de Georges Perec, découvreur d'Emmanuel Carrère, de Jean Rollin, d'Olivier Cadiot, de Marie Dariussec ou encore de Leslie Kaplan. Après Flammarion et Hachette, en 83, il fonde sa maison d'édition, qu'il dirige encore aujourd'hui, P-O-L, trois lettres, ses initiales. Paul Otchakowski-Laurence, bonjour.
Bonjour.
Être éditeur, c'est parler à travers la voix des autres. Pourquoi avoir eu envie aujourd'hui de faire entendre votre voix?
Oh bien, justement parce que, ben je sais pas, c'est un désir qui m'est venu comme ça, qui, enfin, ce film vient après un précédent film un peu autobiographique et j'avais envie. Je me suis rendu compte en réfléchissant à ce que j'avais fait que la genèse de ce que vous appelez ma vocation, enfin bon, ce qui est à mon avis un terme un peu plus, enfin, pas tout à fait exact, parce que justement j'ai l'impression d'avoir fait ce métier non pas par vocation mais parce que tout m'y menait sans que je m'en rende compte moi-même. Donc, et c'est un petit peu, j'ai voulu montrer, comment tout d'un coup quelque chose survient à quelqu'un et qui transforme sa vie et l'amène à des options, à des choix qui n'avaient pas prévu.
C'est peut-être une vocation qui était inavouée, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, vous vous demandez encore comment vous en êtes arrivé là. Enfant de la Sarthe, des études de droit, vous y étiez peut-être pas vraiment prédestiné à ce métier d'éditeur, mais c'était peut-être quelque chose qui était quand même niché en vous. On ne trouve pas vraiment dans le film d'explication sur le pourquoi du comment. Donc je ne suis pas sûre que vous l'ayez vous-même trouvé. On suit un parcours, on comprend.
Oui, j'ai tourné, si je crois être avoir relativement circonscrit les raisons, c'est-à-dire que bon, pour des raisons sur lesquelles je passe assez vite, quand j'étais adolescent ou préadolescent, j'ai été contraint au silence, et je pense que cette sorte d'interdit de parler m'a peu à peu guidé vers ce métier où des gens parlent pour vous, en quelque sorte, des gens, des écrivains.
Mais avec l'idée que vous avez quelque chose à dire, vous aviez quelque chose à dire.
Oui, j'avais quelque chose à dire, quelque chose de précis qui n'est pas très intéressant en soi, mais qu'on m'empêchait de dire. Et je me suis attaché ensuite à trouver des personnes qui disaient la vérité, en fait, qui avaient une pulsion comme ça de vérité à travers leurs écrits. Et c'est ce qui m'a guidé, c'est ce qui a guidé mon choix en quelque sorte, cette espèce de chose très très indéfinissable, mais que j'ai l'impression, en tout cas pour mon propre compte, de ressentir, à savoir là j'entends la vérité, j'entends quelque chose qui était à dire.
Aujourd'hui, vous avez formulé cette parole. Vous avez peut-être encore beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir déjà accompli l'essentiel du chemin dans cette parole que vous vouliez formuler, révéler?
Mais écoutez, et venant de terminer ce film, oui, j'ai cette impression-là. Peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, je me dirais, tiens, j'ai quelque chose encore à rajouter. Mais pour l'instant, oui, comme c'est fini, c'est fini depuis assez peu de temps finalement. Je j'ai le sentiment d'avoir dit quelque chose.
Alors vous auriez pu faire entendre votre voix singulière, votre voix propre par le biais d'un livre, ce qui aurait été le plus évident quand on est éditeur. D'éditeur, vous auriez pu devenir écrivain à part entière, mais c'est par un biais bien plus original, ou disons par un détour, que vous êtes passé, celui du cinéma à l'écran. Est-ce que vous vous êtes dit sûrement que c'était une manière pour vous, l'éditeur, homme de l'ombre, de gagner en clarté?
Oh, je pense que c'était non par désir d'expression plus que par désir de clarté. Enfin, désir de clarté, oui, d'élucidation de ma propre vie ou mon propre cheminement. Mais je pense que c'était un désir d'élucidation plus que de clarté. Et parce que ça me va très bien d'être dans l'ombre. Hein. Alors là, aujourd'hui, avec ce film, je suis un petit peu moins dans l'ombre. C'est pas désagréable, bien sûr, mais c'est pas non plus ce qui me fait marcher, quoi.
Éditeur, bande-annonce.
Des centaines de manuscrits chaque mois, des milliers chaque année, des paroles, des voix, des histoires, des secrets, des mensonges.
Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec l'éditeur.
Éditeur, je le suis depuis 33 ans, sous mon nom, enfin sous mes initiales, ce qui revient au même. Ce n'est pas seulement l'itinéraire d'un jeune homme pressé qui voulait faire carrière dans l'édition, c'est d'abord l'histoire de quelqu'un qui, lisant des manuscrits, éditant des livres, trouve peu à peu ses mots à lui à travers ceux des autres, grâce auxquels il peut vivre.
Les événements ne sont que le point de départ d'une vie nouvelle qui se construit à chaque page.
Vous avez été la personne qui m'a nommé, élu, écrivain.
J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ce manuscrit que j'en ai chié à l'écrire.
Qu'est-ce que c'est un éditeur? Pourquoi cette activité économiquement aberrante? Pour le pouvoir que cela me donne sur les autres, sur ceux que je n'ai pas su être? Pour attacher mon nom à plus grand que moi? J'ai entendu une musique. Elle est là depuis toujours et ailleurs. Toujours est la même et changeante.
Paul Tchaïkovski et Laurence, vous voici donc sujet et objet, puisque l'enfant POL est incarné par une poupée inanimée de Gisèle Vienne dans ce film. Sujet donc de votre film intitulé Éditeur. C'est important, un titre. Vous avez hésité avec quoi avant de retenir celui-là, avant d'opter pour la sobriété?
Je pense pas avoir hésité. Pour moi, ça a été évident, comme et surtout pas l'éditeur, mais éditeur, voilà, un éditeur parmi d'autres.
Pourquoi pas surtout pas l'éditeur?
Ben parce que l'éditeur, s'il y avait eu l'article, ça devenait voilà un modèle pour tous ou je ne sais quoi de ce genre. Enfin, l'éditeur, non éditeur, voilà, un éditeur parmi d'autres. Mais
et ça aurait pu être profession éditeur.
Oui,
ça aurait pu être. Si ce n'est pas une vocation, c'est une profession.
Oui, non, ça aurait pu être une profession, mais je n'y ai pas pensé, je dois dire. Non, ça s'est imposé comme ça, très, très directement, sans trop d'hésitation, sans aucune hésitation même.
Alors, dans ce film, vous remontez le fil. Il y a d'abord la rencontre avec un éditeur, un autre, Christian Bourgois, en 69, qui avait la double qualité, dites-vous, d'aimer la littérature et les auteurs, les écrivains. S'il y a dette envers lui, d'une certaine manière, pour vous, de quoi lui êtes-vous redevable?
Eh bien, écoutez, je lui suis redevable d'abord de m'avoir accueilli comme stagiaire, donc en février 1969, et de l'avoir fait avec énormément de générosité, c'est-à-dire de m'avoir ouvert tous les dossiers, tous les bureaux. J'assistais au comité de lecture, je me suis baladé avec des représentants dans les librairies de Paris, etc. Enfin, j'ai vu vraiment le métier sous tous ses aspects. Et autre chose aussi, comme je le dis, donc c'est quelqu'un qui aimait les auteurs et qui aimait la littérature. Et il y a des tas de maisons où on est beaucoup plus cynique, où on est beaucoup plus industriel en quelque sorte, où l'édition est une activité dans laquelle les auteurs ne sont pas toujours au premier rang. Et j'ai eu beaucoup de chance finalement d'avoir été formé par quelqu'un qui aimait les auteurs et qui aimait la littérature, plutôt que par quelqu'un qui voilà, qui fait ce métier comme on fait un autre métier.
En 70, vous rejoindrez ensuite, mais on va revenir à cette période avec Christian Bourgois, vous rejoindrez le service littéraire de Flammarion, puis celui d'Hachette, avant de créer votre propre maison à vous, POL, en 83. Pourquoi d'abord ce besoin de liberté nouvelle, en 83, avant de revenir sur cette parenthèse où vous avez travaillé pour les autres?
Écoutez, en fait, je me suis aperçu, dans chacun des endroits où j'ai été, qu'à un moment, il y avait une barrière, une limite, un plafond de verre ou pas, mais enfin, une limite, et je ne pouvais pas exercer ma totale liberté de choix. Donc, à chaque fois, j'ai essayé d'avancer, de trouver des solutions pour... Alors, au départ, je n'avais pas du tout la volonté d'être éditeur. Au départ, je voulais travailler dans l'édition. Je voulais être dans ce milieu, parmi les auteurs, parmi les textes. Et c'est peu à peu que j'ai acquis de plus en plus d'autonomie, parce que simplement, il y avait cette volonté de ma part de faire entendre mes choix.
D'autonomie et de responsabilité.
Et de responsabilité, bien sûr.
Oui, avec, oui. Je sais plus, je crois que c'est chez Flammarion, hein, pendant les années Flammarion, que vous dites que c'était les belles années, qu'il y avait énormément de manuscrits qui arrivaient tous les jours, encore plus qu'aujourd'hui. Là, si on prend une année type chez POL, combien de manuscrits arrivent?
On reçoit environ 3000 manuscrits par an chez POL, oui.
D'auteurs donc que vous n'éditez pas encore,
hein, voilà, d'anonymes
ou d'inconnus, enfin en tout cas d'auteurs qui ne sont pas encore dans votre répertoire, oui, entre guillemets. Et du coup, pourquoi c'était si particulier ces années-là chez Flammarion?
C'était un petit peu la découverte, si vous voulez. J'arrive dans un service littéraire. Alors, chez Christian Bourgois, j'ai été stagiaire et puis lecteur extérieur. Et donc, je venais une ou deux fois par semaine après le stage et on me donnait des manuscrits à lire. Mais là, tout d'un coup, j'étais dans un service littéraire. Je voyais cette masse de manuscrits qui arrivait tous les matins, qu'on se répartissait de manière tout à fait aléatoire entre les lecteurs du service littéraire. On était trois, si je m'en souviens. Et voilà, il y avait quelque chose d'abondant et de magnifique de ce point de vue-là. Enfin, c'était la découverte, c'était la surprise, l'enveloppe qu'on ouvre et ce qu'on va y trouver et qui est toujours une surprise.
Et à cette époque, Jean Cayrol vous dit, découvrir un manuscrit d'un inconnu, c'est comme regarder chez les gens en passant devant leur fenêtre au rez-de-chaussée. C'est pas bien, mais c'est irrésistible. Alors on le fait quand même, de regarder à travers la fenêtre. Est-ce que vous avez gardé aujourd'hui, ce qui serait un miracle, cette même impression de la première fois quand vous découvrez un manuscrit?
Oui, parce que c'est à chaque fois la première fois, c'est-à-dire que il n'y a pas deux manuscrits qui se ressemblent, même si on peut trouver des tendances, des similitudes, etc. Mais aujourd'hui encore, ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai, aujourd'hui encore, je prends énormément de plaisir à ouvrir les enveloppes. C'est quand même quelque chose de très, très étonnant, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et parfois, il y a des rencontres formidables.
C'est vrai que tout se joue à la première phrase ou aux 60 premières pages?
Oh, c'est différent à chaque manuscrit.
Alors, oui, bien sûr. Parce que vous pouvez pas tout lire.
Non, bien sûr, mais je fais ce qu'on appelle des sondages. Je commence par le début, comme tout le monde, comme on fait je commence par lire la lettre d'accompagnement quand il y en a une. Et il y a des lettres qui sont absolument extraordinaires. Dans le film, j'en cite un certain nombre.
C'est une comédienne qui les lit, on en entendait des extraits, voilà, aussi.
Et ce sont des choses tout à fait authentiques, hein. Je n'ai rien modifié, sinon, de temps en temps, des éléments qui permettaient une identification, mais oui, donc je commence par lire la lettre, ensuite je lis comme un lecteur normal, et puis bon, je vois si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît beaucoup, je le mets de côté, je l'emporte chez moi le soir ou le week-end, mais et puis je continue, je parcours le livre, je saute des pages, je reviens en arrière, je vais à la fin, je me promène, et puis au bout d'un moment, je sais si ce livre va m'intéresser. Je ne dis pas qu'il est bon ou mauvais, je sais simplement qu'il m'intéresse ou qu'il ne m'intéresse pas beaucoup.
Alors on ne sait pas, dans ces lettres qui sont lues dans votre film, de qui sont ces mots, qui a écrit ces lettres de motivation pour retenir votre attention. Est-ce que vous vous souvenez, si on prend quelques-uns de vos auteurs, des mots qu'ont pu vous écrire, je ne sais pas, Marie Darrieussecq,
Olivier Cadieux, Emmanuel Carrère? Je me souviens très bien de la lettre d'accompagnement de Marie Darrieussecq. Elle me disait, voilà, j'ai tel âge, j'ai... écrit une nouvelle qui a remporté le prix du jeune écrivain. Voilà, c'était la seule. C'est une lettre très brève, sans aucun. Voilà, il n'y avait pas d'épanchement, il n'y avait pas de confidence, mais il y avait simplement cet élément factuel, cette information. Et voilà, et j'ai commencé le livre et je l'ai lu.
Et cette information en disait long sur la romancière que vous avez rencontrée après dans ces
livres ? Non, justement, ça ne disait rien. ça ne disait rien sur elle. Et puis bon,
justement, cette économie de mots.
Voilà. Oh, cette économie de mots. Oui, il y a aussi des tas de manuscrits qui arrivent sans lettre d'accompagnement. Hein. Ça arrive également. C'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est parfois une. Il y a parfois des choses qui sont bouleversantes, enfin, même si le texte qui les accompagne n'est pas à la hauteur de la lettre, il y a parfois des choses très, très fortes. Et je pense en avoir mis un certain nombre dans le film, justement.
Marc Cholodenko, le premier écrivain que vous publiez, qui vous a suivi de maison en maison, « Je me suis servi de toi », lui dites-vous à travers ce film, là où vous faites entendre votre voix, « Je me suis servi de toi, je pense que tu m'as sauvé la vie, mais je pense que j'avais une vie à sauver », c'est ce que vous nous expliquiez à l'instant. On a toujours ce sentiment que vous avez cette manière de dire qu'on n'a quand même rien sans rien. Vous le vouliez, ce parcours. Vous vouliez être éditeur. Vous vouliez donner de la parole aux autres et donner du poids à leurs mots.
Oui, bien sûr, c'est mes premières semaines, mes premiers mois chez Christian Bourgois, mon convaincu que c'était ça que je voulais faire, bien sûr. J'avais ce pressentiment, j'avais fait des rencontres à la fac de droit, d'un écrivain d'ailleurs que je publie toujours, qui est un de mes plus vieux amis. Je sentais qu'il y avait quelque chose là, et c'est plutôt que de me diriger vers la profession d'avocat à laquelle je me destinais, en fin d'études, j'ai voulu faire de l'édition, entrer dans l'édition pour voir, et j'ai vu. Et ça m'a convaincu et j'ai compris que c'était ça que je voulais faire.
Alors après Flammarion, après Hachette, où vous avez dirigé vos propres collections, vous décidez donc de fonder votre propre maison, ce qui veut dire aussi de créer votre propre famille, comme le dirait Christian Bourgois.
J'ai le plus grand respect et la plus grande admiration pour les gens qui écrivent, même quand ils écrivent des mauvais livres ou des mauvais manuscrits qui peuvent devenir de mauvais livres. Mais je dis, bon, c'est peut-être une boutade ou une dérobade, je ne sais pas. Je dis, mon œuvre, c'est mon catalogue, ma vie, c'est mon catalogue. Il y a un mot que j'aime beaucoup, je ne suis pas le seul à employer, mais c'est le mot « maison », de parler d'une maison d'édition. On parle différemment d'une maison de production et on ne parle pas, quand on parle d'une galerie, parce que des grands galeristes ou des grands producteurs jouent le même rôle que moi. Hein. Mais moi, je suis à la maison. Et les relations que j'entretiens avec des auteurs, bon, que nous sommes, bon, comme on le sait, je travaille avec très peu de monde, sans comité de lecture. En fait, toutes ces décisions sont prises par Dominique, ma femme, par moi. Enfin bon, nous sommes les lecteurs ultimes, finaux. Enfin, nous sommes les personnes qui décident à la fin. Alors, sur des années, mais parfois même immédiatement, mais aussi sur des années, se crée entre des auteurs auxquels on a fait confiance et qui vous font ensuite confiance, qui continuent à vous apporter des livres, se créent, c'est vrai, des véritables liens de famille avec tout ce que ça peut comporter de relations sentimentales, personnelles, intimes, des liens familiaux.
Et oui, dans toutes les familles, il y a, Paul Otchakowski-Laurence, des disputes, des retrouvailles, des secrets de famille et puis des préférés. Il y a les chouchous dans une famille. Alors, est-ce que vous avez les vôtres aujourd'hui? En termes d'univers, évidemment.
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que chacun est le favori, la favorite.
Enfin, vous êtes un bon père de famille, vous ne voulez pas diviser.
Hein. Oui, c'est vrai. Par exemple, quand on me demande dans cette rentrée quel est le livre que vous préférez, j'ai pas de livre préféré, j'ai que des livres préférés.
Invité jusqu'à 12h30, l'éditeur Paul Otchakowski-Laurence, directeur fondateur de la maison POL pour son film édité, à voir à partir d'aujourd'hui au Reflet Médicis à Paris. Et puis en tournée, Projo, débat, ça commence déjà là. Cette semaine, demain, vous serez au Cratère à Toulouse à 20h et vendredi au Méliès à Grenoble, même heure, 20h donc. Pour l'heure, vous êtes avec nous jusqu'à 12h30.
France Culture, la grande table. Olivia Jesbert.
J'ai dit éditer, je crois, au lieu d'éditeur. Mais l'éditeur édite aussi d'une manière ou d'une autre. Quelle dimension personnelle vous avez donnée à votre maison et du coup surtout à votre travail d'éditeur? Comment imprime-t-on sa marque à une maison d'édition? Est-ce que c'est par les orientations littéraires qu'on va choisir de lui donner?
Mais on ne choisit pas tellement les orientations littéraires. Il y a des livres que je ne publie pas, bien sûr. Donc ça définit à contrario des directions ou des. Mais
c'est par exemple peu de littérature étrangère.
Alors peu de littérature étrangère. Il y a quelques auteurs quand même. Il y a Dennis Cooper, Harry Matthews, il y a Dumitru Tsepeneag, Marco Lodoli. Enfin, mais c'est effectivement très minoritaire par rapport à la littérature française. Tout simplement parce que je ne lis pas les littératures dans d'autres langues et que pour moi c'est presque inconcevable de publier un livre que je n'ai pas lu
dans sa langue originale.
Oui, dans sa langue originale. Alors en général quand on me recommande très très fortement un auteur étranger, je sens la conviction, bien sûr, de la personne qui m'en parle, et je demande des pages traduites. Je demande un certain nombre, en général 20 à 30 pages, et puis si ça me convainc, j'en demande une trentaine supplémentaires pour vraiment m'imprégner du texte. Et là, je peux y aller, oui. Quand sur 60 pages, je suis vraiment convaincu, là, je peux me lancer.
Donc si c'est moins par des orientations littéraires choisies, décrétées d'une certaine manière, est-ce que c'est aussi par la relation qu'on va tisser avec ces auteurs ?
Tout à fait. Si vous voulez, moi, il y a deux choses qui me guident. Pardon. Il y a deux choses qui me guident vraiment beaucoup, très fortement, je veux dire. C'est d'une part découvrir de nouveaux auteurs. Ça, c'est quand même une joie immense, quelque chose de très, très, très puissant, très fort. Et puis, c'est à partir du moment où un auteur entre dans cette maison, comme dirait Christian, à partir du moment où un auteur entre dans la maison d'édition, c'est l'aider à développer son œuvre, à s'épanouir dans son œuvre et suivre cette œuvre à travers les genres les plus divers, si l'auteur a besoin de constituer son œuvre à travers les genres les plus divers. Il n'y a pas de genre interdit dans la maison.
Peu de littérature étrangère traduite et publiée chez POL, un peu quand même, mais vos auteurs se vendent par contre très très bien à l'étranger. Ce qui voudrait dire que vous ne faites pas une littérature si franco-française, en tout cas c'est peut-être pas là-dedans qu'il faut trouver la marque ou la patte ou le style POL. C'est des gros succès d'édition souvent à l'étranger et ça c'est important pour la survie même de la maison d'ailleurs.
Tout à fait, oui, c'est un aspect très important, mais oui, des auteurs comme Marie Dariussec, comme Emmanuel Carrère par exemple, sont des auteurs qui sont très très traduits et dans le monde, oui.
Emmanuel Carrère, puisque vous en parlez, c'est l'un de vos auteurs par la définition qu'il donne de la littérature. Est-ce qu'il est un auteur 100% POL ? Écoutez.
Une des visées de la littérature, c'est un peu d'essayer de prendre en charge tout ce qui traverse la conscience quoi, de la personne qui écrit. Ça ne veut pas dire du tout nécessairement quelque chose de nombriliste. Ce qui traverse la conscience, c'est énormément d'objets extérieurs. C'est le vaste monde, mais c'est aussi des trucs très privés. C'est-à-dire que il me semble que chacun d'entre nous pense constamment à un tas de choses. Je veux dire qu'on pense à la politique, on pense au sexe.
Oui, vous en parlez beaucoup.
On pense aux livres qu'on a lus, on pense à des tas de choses. J'aime bien qu'il y ait sous la même couverture des choses dont on se dit qu'a priori, elles ne devraient pas aller ensemble. Ça me paraît plus fidèle au mouvement de la conscience, à la vie de l'esprit, enfin voilà.
Et l'invité de la deuxième partie de la Grande Table vient de nous rejoindre, Alexandre Geffen, bonjour. Vous êtes l'auteur d'un essai « Réparer le monde » dont on va reparler dans la deuxième partie de l'émission. Je vous fais réagir tout de suite parce qu'à l'instant, on entendait Emmanuel Carrère nous parler de la littérature, de sa littérature, de son écriture, traverser les consciences, dit-il, et du coup parler de tout ce qui nous entoure et tout ce qui entre en nous, ou plutôt en lui, l'écrivain. C'est un exemple, Emmanuel Carrère, de ce que vous racontez, expliquez dans votre livre sur ce qu'est la littérature contemporaine française aujourd'hui, ce qui en est peut-être le propre, cette idée de réparer le monde, d'une littérature thérapeutique, attachée aussi à réécrire l'histoire, à prendre soin des mémoires. Emmanuel Carrère est un auteur, un pur auteur de littérature contemporaine française.
D'autres vies que la mienne, c'est un des grands romans de l'empathie, un des grands romans qui va chercher à panser les plaies, panser P-A-N-S-E-R, et Melker lui-même joue de cette orthographe.
Alors, est-ce que c'est aussi un auteur 100% POL pour vous, Emmanuel Carrère?
Là, c'est une question difficile. C'est un auteur qui a publié la quasi-totalité de son œuvre chez moi, donc c'est un... Mais je ne voudrais pas le réduire en lui collant l'étiquette POL. Il est, voilà, comme tous les écrivains que je publie, j'espère, il ne se définit pas par la maison d'édition dans laquelle il
publie. Mais lui, il semble vous correspondre.
Ah,
en quoi?
Oui, moi je trouve ce qu'il écrit tout à fait formidable et en effet d'une amplitude extraordinaire à partir de choses très personnelles aussi. Et voilà, ça c'est un des aspects que j'aime bien dans la littérature, que j'aime beaucoup dans la littérature d'Emmanuel Carrère et que j'aime voir représenté dans cette maison.
Et parmi tous les manuscrits que vous recevez aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, le même que celui d'Alexandre Geffen dont on parlera tout à l'heure, que beaucoup d'auteurs aujourd'hui, peut-être même inconsciemment, attribuent à leur écriture, à leur littérature, une fonction thérapeutique?
Oh oui, c'est très net. Oui, il y a un reflux de la littérature psychologique pour une littérature qui embrasse le vaste monde. Oui, ça c'est très clair. Il y a beaucoup de sujets d'aujourd'hui qui se retrouvent dans des manuscrits que je reçois, pas forcément bien traités toujours, mais c'est très clair comme tendance, oui.
Et vous pensez-vous qu'en lisant, on peut se faire du bien?
Oh, j'en suis persuadé, intimement persuadé, oui.
En quoi ça vous fait du bien à vous?
Parce que ça amène à réfléchir sur soi-même, sur sa vie, sur le monde. Ça amène à prendre cette distance qu'introduit justement la lecture, cette manière de faire travailler l'intelligence ou la réflexion. C'est tout à fait déterminant, c'est tout à fait important. Et puis, la littérature propose des modèles qu'on suit ou qu'on ne suit pas, mais qui des personnages. Qui vous amène à réagir.
À se repenser. Paul Ochakowski-Laurence, vous ne les justifiez pas tous, vos refus, sur les 3000 manuscrits que vous recevez environ chaque année, mais vous concédez quand même dans ce film parfois une position de surplomb, celle de l'éditeur qui peut se montrer cassant, méprisant avec des auteurs dont il refuse le manuscrit. J'imagine que vous ne cherchez pas volontairement à blesser, mais il y a quand même un côté maître d'école dans le boulot d'éditeur.
Tout à fait, oui, mais c'est... Voilà, il y a un moment, malgré tout, on est obligé de dire je ne publie pas votre livre et pour telle et telle raison. On ne peut pas toujours entrer dans les détails parce que je ne peux pas le faire pour 3000 manuscrits, bien évidemment. Mais pour certains d'entre eux, oui, quand il me semble que le degré d'élaboration est suffisant pour justifier une réponse un peu plus détaillée. Et parfois, on fait des bêtises en répondant, bien entendu. Il n'y a pas volonté de blesser, bien entendu, mais il est parfois, c'est parfois inévitable. Quand on refuse son œuvre à quelqu'un qui y a mis beaucoup de lui-même, on blesse forcément.
Et vous avez aussi, vous, été blessé en plus de 30 ans de POL. Dans ce film, éditeur, vous jouez l'avenir de votre maison aux cartes dans une fiction que vous montez pour ce film où on voit aussi le poids des banques, de la question financière sur le métier d'éditeur. Puis vous évoquez aussi un procès qui vous a beaucoup touché et dont vous dites un peu espiègle, l'auteur du délit, c'est l'éditeur, trop fier d'avoir pour une fois usurpé l'identité de ce qu'il aurait voulu être, auteur. Le procès en question, c'est celui qui s'était tenu devant la 17e chambre correctionnelle du TGI de Paris à propos du roman de Mathieu Lindon, Le procès de Jean-Marie Le Pen, et pour lesquels vous avez été condamné l'un et l'autre jusque devant les plus hautes instances européennes. Il était ici question de diffamation. D'ailleurs, Marie Darrieussecq, l'une de vos écrivaines, en avait fait un bon compte-rendu en 99 dans Libération. Elle rappelait qu'elle avait, comme beaucoup, témoigné en faveur de la liberté d'expression, de la liberté d'écrire et des droits du roman, en faveur de ce qui était l'évidence, mais la justice ne l'a pas perçue comme telle. La maison est toujours là, POL. Est-ce qu'elle se porte bien aujourd'hui?
Oui, ça va, on continue.
Bon, juste avant de partir, il faut quand même nous expliquer ce sigle, ces quelques points, 7 points pour être précis, qui sont devenus la marque visuelle de POL. Inspiré de quoi?
C'est inspiré d'une figure du jeu de Go que l'on trouve à la page 566 de la vie mode d'emploi de Georges Perec sur le palier de Bartel Booth.
Georges Perec, que vous avez connu et édité donc jusqu'à sa mort, et juste qui était à peu près, correspondait à peu près à la fondation de la maison d'édition POL. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table. Je rappelle donc qu'on pourra voir votre film dès aujourd'hui à Paris, au Reflet Médicis, avec plusieurs dates, des rencontres que vous organisez avec des auteurs à vous, et puis deux dates pour l'instant en région. Il y en aura d'autres sûrement, et vous allez parler, circuler avec ce film, parler de ce métier d'éditeur. Donc merci beaucoup à vous.
Merci.